La relation d'aide. Alors, j'ai bien aimé cette définition que j'ai trouvée dans Wikipédia, qui dit « La relation d'aide consiste en un accompagnement psychologique pour les personnes en situation de détresse morale. » Alors, je précise, nous faisons de la relation d'aide au quotidien, sans même parfois s'en rendre compte. Quand un frère ou une sœur vient nous parler d'un problème, vient nous parler d'un tracas, d'un souci, on fait de la relation d'aide. Et la relation d'aide est donc à portée de nous tous. Bien que tout le monde n'ait ni le don ni l'appel d'en faire son quotidien. C'est parce que nous pouvons être amenés à faire de la relation d'aide que je vous propose une série de 3 prédications sur ce vaste sujet. Et ce matin, j'aimerais m'attarder plus précisément sur la présence lors d'une relation d'aide. En effet, je distingue 3 aspects à la relation d'aide et tout commence par une présence. Et je garde le secret à propos des 2 autres aspects que je vous proposerai les fois suivantes. Pour introduire cette prédication, j'aimerais vous raconter une petite histoire que l'on m'a racontée quand j'étais animateur de Caen. Et elle va nous donner un aperçu de l'ensemble de l'enseignement sur la relation d'aide. Donc voilà. Lors d'un camp d'été, un petit garçon se met rapidement à l'écart du reste du groupe. Durant toute la journée, ou presque, il reste, un peu plus loin, à regarder les autres s'amuser ensemble. Un animateur, voyant cela, pris de compassion, décide d'aller simplement à côté de ce petit garçon, s'asseoir en silence. Pendant plusieurs jours, le scénario se répète. Et l'animateur rejoint le petit garçon qui tolère de mieux en mieux sa présence silencieuse. Et les jours passent. Et le petit garçon s'ouvre peu à peu à l'animateur. Alors, au début, c'est pas grand-chose. Un simple bonjour. Puis le lendemain, c'est une remarque. Puis le surlendemain, c'est un aveu. Puis le camp prend peu à peu fin et chacun rentre chez soi. Et là, un regret. L'animateur a un regret, c'est de ne pas avoir pu aider ce petit garçon qui avait gardé son malaise bien secret. Puis plusieurs mois s'écoulent et le téléphone sonne. L'animateur décroche, c'est la maman du petit garçon. « Ah, quel plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et comment va votre fils ?» La maman, d'un ton triste, répond ceci. « Il est décédé il y a quelques jours. Il était atteint d'une grave maladie et pendant plusieurs mois avant le camp, il avait pris de la distance avec ses copains. Il était resté enfermé dans sa chambre à regarder par la fenêtre. Si je vous appelle, c'est pour vous remercier de tout mon cœur. Depuis qu'il est rentré du camp, il ne nous a parlé que de vous. Il avait repris goût à la compagnie et s'était remis à jouer avec ses copains de tout cœur. Votre présence lui a redonné ce que la maladie lui avait enlevé. Il arrive que l'on ne se rende pas compte du bien que notre présence peut faire autour de nous. Notre présence a un impact sur chacun d'entre nous, que nous soyons dans la joie ou non. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Job, au chapitre 2. Et pour nous resituer brièvement, Job est un homme intègre aux yeux de Dieu. Tellement intègre qu'un jour, Satan propose de tester cet humain en le frappant de divers malheurs avec l'intention de prouver à Dieu que son intégrité dépend de tous les bienfaits que Dieu lui a accordés. Dieu accepte ce défi Mais dans sa souveraineté, il impose des limites à Satan. Job va tout perdre, sauf la vie. Il perd sa famille, il perd ses richesses, il perd sa santé. Et c'est donc dans ce contexte-ci que nous allons lire ce passage, dans le livre de Job, au chapitre 2, du verset 11 à 13. Je lirai dans la version Summer, dans le livre de Job, au chapitre 2, du verset 11 à 13, qui dit ceci. Or, trois amis de Job apprirent que tous ses malheurs venaient de fondre sur lui. Ils vinrent chacun de son pays. C'était Eliphaz de Théman, Bildad de Choua et Tsophar de Naama. En effet, ils décidèrent ensemble d'aller lui témoigner leur sympathie et le consoler. Lorsqu'ils l'aperçurent de loin, ils ne le reconnurent pas. Et ils se mirent à pleurer, à grand bruit. Ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Puis ils restèrent là, assis par terre, à côté de lui, 7 jours et 7 nuits. Aucun d'eux ne lui dit un mot, car il voyait bien combien sa souffrance était grande. Dans un premier temps, je vous propose de voir plus précisément l'attitude des amis de Job dans ce passage. Et dans un second temps, à partir de ce texte, nous en tirerons un certain nombre d'enseignements pour notre pratique de tous les jours. La présence des amis de Job. Les trois personnages en question apprennent la situation désastreuse de leur ami Job. Et leur première réaction sera donc de préparer un voyage, d'aller le visiter. Et il est intéressant à ce moment-là de se poser la question suivante. Quelle est ma réaction? Quelle est notre réaction quand j'apprends la douloureuse situation d'un être qui m'est cher? Est-ce que nous aussi, nous préparons un voyage ou est-ce que nous préparons une visite? Ou au contraire, face à l'incompréhension de la souffrance, est-ce qu'on fuit? Leur intention est très bonne. Ils ont le souhait de témoigner de la sympathie et de consoler Job. Job qui est dans une détresse folle, je le répète. Une fois arrivé de loin, ils ne le reconnurent pas, tant il était défiguré par la maladie. Quand le texte dit que les trois personnages, virent leur ami et ne le reconnurent pas, il est évident qu'ils savent qui est cette personne au loin. Mais à cause de la maladie, elle a changé d'aspect. Je vous laisse donc imaginer l'ampleur de la maladie pour que Job soit méconnaissable. Pour vous donner une idée, dans mes recherches, j'ai trouvé plusieurs propositions de maladie et deux retiennent mon attention. La lèpre et l'éléphantiasis, les maladies les plus douloureuses connues du monde d'alors. Alors, la lèpre est peut-être plus connue, c'est une maladie infectieuse touchant les nerfs, la peau et les muqueuses et provoquant des infirmités sévères. Tandis que l'éléphantiasis désigne une maladie dont les symptômes sont une augmentation du volume d'un membre ou d'une partie du corps causée par un œdème. Il faut préciser que le membre ou les membres affectés peuvent atteindre plusieurs fois leur taille normale. Les trois amis sont terriblement choqués par la situation de Job. Et dans leur lamentation à grand bruit, ils vont avoir plusieurs gestes qui symbolise le deuil. Tout d'abord, ils déchirèrent leurs vêtements. En effet, à cette époque-là, c'était habituel. Les endeuillés faisaient une déchirure dans leur habit extérieur lors de l'enterrement ou juste après la mort de la personne, souvent près du cœur, pour désigner la brisure. Elle n'est pas recousue, donc cette déchirure n'est pas recousue durant le temps de deuil. Nous lisons aussi le geste donc de jeter de la poussière, de la cendre, au-dessus de leur tête. Après quoi, les trois amis, sous le choc, vont rester à côté de Job 7 jours et 7 nuits. Ce nombre de jours fait référence au temps habituel du deuil en Orient. Cependant, ces quelques jours de silence nous prouvent, sont interprétés de deux façons, et de deux façons qui peuvent être complémentaires. Dans un premier temps, la scène est un contraste ironique entre l'intention de consoler Job et l'incapacité de trouver les mots pour. Et dans un second temps, nous observons que les amis n'ont rien trouvé de mieux pour réconforter Job que de rester en silence et ne rien dire. Dans cette situation, la présence silencieuse s'avère d'un plus grand réconfort pour Job que les paroles des amis qui vont suivre cette période. D'ailleurs, Job fait la remarque au chapitre 16 qui cherche à leur faire comprendre qu'il aurait mieux valu qu'ils restent silencieux. Toutefois, pour l'instant, les trois amis sont dans l'incapacité de trouver les mots pour consoler Job. Leur réaction sera donc pour moi la meilleure. Ne rien dire. L'humanité est mise en échec face à la souffrance que bien souvent nous ne comprenons pas. En effet, les hommes restent souvent sans voix face à la souffrance humaine que nous ne pouvons nous expliquer. Maintenant que nous avons observé de près l'attitude des amis de Job, essayons de tirer certains enseignements afin d'améliorer notre présence envers ceux qui en ont besoin. Notre présence. Tout comme dans la petite histoire d'introduction, les amis de Job ont commencé leur présence dans le silence. C'est d'ailleurs une chose pas si simple à faire. Quand on rend visite à une personne, on se sent parfois, obligé de lui dire des mots de consolation qui, au final, ne servent à rien. Souvent, en agissant de la sorte, on risque même de faire pire que mieux. Dans certaines situations, il faut avoir la force de commencer par se taire. Être simplement présent, les uns pour les autres. D'autant plus que la présence est déjà une façon d'aider celui qui ne va pas bien. C'est déjà une façon d'aider celui que nous accompagnons. Lors d'un stage, dans le cadre de mes visites en hôpital, je me suis aperçu dans le discours de certains patients qu'ils appréciaient ma présence, car ils se sentaient avoir de l'importance. Ils se rendaient compte, par ma simple présence, silencieuse ou non, qu'ils avaient de l'intérêt pour moi. C'était d'autant plus marqué chez les patients qui n'étaient pas même visités par leur famille. Et donc, je vous laisse imaginer l'importance d'une visite, même d'un aumônier. Face à la souffrance, il vaut peut-être mieux, selon la situation, rester silencieux et compatissant, que de dire 1000 mots qui n'auront aucune utilité. À la réaction de ces patients, je me suis rendu compte d'une chose. Une personne dans la souffrance a souvent besoin de présence humaine. Vous voyez, une personne dans la souffrance a souvent, même sans l'admettre, besoin de présence humaine. Je ne compte plus toutes les fois durant les camps ado-pré-ado que j'ai animés où les jeunes ont été un jour ou l'autre un peu tristounés, se sont mis à l'écart à des moments où une compagnie leur aurait fait du bien. Et ça me faisait un pincement au cœur de les voir se mettre un peu à l'écart et de ne pas participer vraiment et de refuser quand un animateur, un ami, voulait lui apporter sa présence. Dans un premier temps, la présence de l'autre peut être gênante. C'est aussi pour ça qu'on peut refuser la présence de quelqu'un. Car c'est admettre avoir besoin de la présence d'un autre pour aller mieux. Ça peut vouloir dire aussi pleurer devant l'autre, être en colère devant l'autre, se lamenter devant l'autre. Et cela peut aussi être gênant. C'est durant cette première période que le silence est souvent d'un plus réconfort que les mots. Puis, dans un autre temps, après avoir accepté sa présence et son aide, c'est là que commence un dialogue. C'est là que peut commencer un dialogue, une discussion. La présence silencieuse a donc un but, une finalité, celle d'en arriver au dialogue, celle de percer ce silence. On le voit dans le livre de Job. Après cette période de silence, ils en arrivent à dialoguer. Alors soit, le dialogue est à revoir, mais toutefois, ils dialoguent. Ils en discutent. Ils partagent leur opinion. En tant que chrétiens, notre présence auprès de ceux qui ne vont pas bien, a aussi pour but de lui permettre, quand il en est question, de retrouver ses liens avec le Seigneur, avec son entourage, et parfois même avec lui. Toutefois, j'aimerais préciser qu'il ne faut pas imposer à l'autre notre présence. Il ne faut pas forcer les choses. Alors comment faire pour savoir si je m'impose? Alors on pourrait faire tout un cours pour savoir quand est-ce que je m'impose ou est-ce que ma présence est bienvenue. Je pense que le meilleur moyen est de rester attentif à la réaction de l'autre face à ma présence. Toutefois, ma présence a des limites. Ayant moi-même des limites, ma présence a des limites. Elle ne pourra jamais donner un sens ou une explication à la souffrance de l'autre. D'ailleurs, la Bible n'explique ni le mal ni la souffrance. Ce serait une façon de l'excuser. Au mieux, notre présence rendra la souffrance de l'autre un peu plus supportable, un peu plus tolérable. Il me semble plus juste de vouloir aider la personne à supporter sa souffrance plutôt qu'à l'expliquer. Parce que qui sommes-nous pour expliquer la souffrance d'une personne? Et on voit les amis de Job qui cherchent à expliquer sa souffrance se sont trompés. Donc, je nous encourage plutôt à aider la personne à supporter sa souffrance, à l'aider à supporter cette souffrance, à lui donner le courage de supporter cette souffrance, plutôt qu'à l'expliquer. Notre présence n'est pas non plus un remède miracle qui empêche la personne de souffrir. Nous ne sommes pas ou nous n'avons pas les effets d'une potion magique de Panoramix. C'est aussi un des risques de l'aumônier, celui de vouloir avoir le même ministère qu'un médecin, avoir les mêmes fonctions qu'un médecin, de vouloir soulager les souffrances d'une personne. Mais ce n'est pas son rôle. L'aumônier n'est pas un super-héros. C'est une personne comme nous tous, que d'ailleurs j'admire, car à l'aide de simples outils, comme entre autres la présence, il peut apporter du réconfort dans des milieux parfois très durs. À l'hôpital, sur un terrain militaire, un campement militaire, dans les écoles, maintenant on sait que les écoles sont des lieux qui sont de plus en plus difficiles, et j'en passe. Alors nous ne sommes pas tous appelés à être aumônier ou à avoir le ministère d'aumônier, parce que ça reste quand même un ministère assez particulier, assez difficile. Toutefois, nous sommes tous appelés à avoir les mêmes fonctions, à avoir cette même présence les uns pour les autres, par amour pour notre prochain. Car au final, n'est-ce pas un acte d'amour que d'être présent comme l'aumônier, avec un voisin, avec un collègue, avec un frère ou une sœur, avec un parent qui passe par la souffrance? N'est-ce pas un acte d'amour? C'est aussi pour cela que celui qui fait acte de présence envers une personne dans le besoin doit être une personne avec le désir de partager les fardeaux de celui qui l'accompagne. D'ailleurs, durant mes stages en hôpital, c'est la pire chose que j'ai découverte. Un aumônier qui arrive à l'hôpital pour partager les fardeaux avec certains patients, alors que lui est arrivé le matin avec ses propres fardeaux. Comme je le dis et je le répète autour de moi, quand il est question de personne, il vaut mieux ne rien faire que de mal faire. Dans ce cas précis, il vaut mieux, donc dans le cas où on arrive avec nos propres fardeaux, il vaut mieux prendre quelques jours de repos afin de donner ces fardeaux à celui qui les élimine, au Christ. C'est important parce que ça évitera d'écraser l'autre et d'être écrasé par ces fardeaux-ci. Je le répète, à mon grand regret, nous ne sommes pas des super-héros. Et comme nous l'enseigne la parole, il y a un temps pour toute chose, un temps pour être présent et un temps pour être accompagné. D'autant plus que ma présence auprès de ceux qui souffrent peut éveiller en moi le sentiment de ma propre faiblesse. Oui, ma présence auprès de ceux qui souffrent peut éveiller en moi le sentiment de ma propre faiblesse. J'en viendrai à ma conclusion. Vous avez sans doute remarqué que je n'ai pas encore parlé du rôle de Jésus ni de l'Esprit dans une relation d'aide, et plus précisément dans la présence lors d'une relation d'aide. Et ce serait d'ailleurs quelque peu orgueilleux de ne pas l'évoquer et de se dire qu'on s'en sortirait très bien sans eux. Si je n'en ai pas encore parlé, c'est parce que j'avais envie de conclure avec eux, de conclure avec leur rôle, leur importance. D'autant plus, après nous avoir encouragés à porter les fardeaux des uns et des autres. Le Seigneur est toujours le premier compagnon lors d'un entretien. Toujours le premier. Il ne faut pas se leurrer ou s'imaginer, quand on rend visite à une personne, que le Seigneur arrivera en même temps que nous. Non. Le Seigneur est déjà là. Il est déjà présent. Présent et en action. Car bien avant que j'arrive pour porter les souffrances avec mon frère, avec ma sœur, pour l'aider à supporter cette souffrance, le Seigneur est déjà en action. Il porte déjà les fardeaux de mon frère ou de ma sœur. Il aide déjà cette personne à supporter ses souffrances. Celui qui est accompagné a besoin de partager ses fardeaux avec son frère, mais aussi et surtout avec son Seigneur. Je ne suis pas indispensable, mais c'est un privilège de savoir que le Seigneur m'utilise pour l'accomplissement de ses plans envers mes frères et mes sœurs. Et pourquoi pas envers mon collègue, mon patron, envers mon voisin, ma voisine, envers ma cousine. Qu'importe, le Seigneur peut nous utiliser à être présent pour accomplir les plans, ses plans. C'est aussi pour cela que c'est de notre devoir de nous appuyer sur l'aide de l'Esprit, sans qui nous serions incapables de bien accompagner un frère ou une sœur. Il faut préciser aussi que souffrir avec, ce n'est pas souffrir à la place. Le Christ a souffert à notre place, pas nous. Nous pouvons alléger la peine de l'autre, pas notre présence, l'aider à la porter, mais nous ne pouvons pas la supprimer. Ce n'est pas notre rôle, mais celui du Christ, qui s'est donné en sacrifice sur la croix, devant laquelle il nous invite à y déposer nos fardeaux. Amen.